Et on feuillette à présent les journaux de la presse. La revue de presse avec vous, Léa Boutin-Rivière. Et à la une, ils en rêvaient, ils l'ont fait.
On connaissait le fameux « à jamais les premiers » de l'Olympique de Marseille. Le Parisien dimanche rétorque ce matin d'un « à jamais les meilleurs » après la victoire sans conteste et sans pitié du Paris Saint-Germain hier en finale de la Ligue des Champions. 5-0 face à l'Inter Milan. Véritable démonstration de force qui, salue la tribune dimanche, se hisse parmi les moments majeurs de l'histoire du sport tricolore. Face à une équipe aussi jeune que talentueuse, les Milanais faisaient leur âge, 30 ans de moyenne sur le terrain, plutôt que de faire étalage de leur expérience, écrit l'hebdo un brin cruellement. Un club quasi invisible pendant toute la rencontre qui a légitimé une bonne fois pour toutes le nouveau projet du PSG sans Messi, sans Neymar, sans Mbappé, bref, un projet plus jeune et plus français.
Et pour citer du Corneille aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années, Léa. Un projet incarné par un joueur en particulier.
Oui, d'avance, désolé pour ce jeu de mots un peu éculé, mais c'était un joueur particulièrement doué, désiré, doué. Je sais que le Parisien dimanche porte au nu le titre, fasciné par ce phénomène de 19 ans, auteur hier d'un doublé et d'une passe décisive. Bien avant le coup de sifflet final, se délecte l'hebdo, il ne faisait de doute pour personne au cœur du peuple parisien que Désiré Doué n'a jamais mieux porté, mieux honoré son patronyme. À 3 jours de son anniversaire, le 20e, poursuit le Parisien dimanche, l'attaquant s'est offert le cadeau dont rêvent tous les footballeurs de la planète, celui de devenir l'idole de tout un club pour l'éternité.
Et cet exploit, Léa, relègue au second plan les autres thèmes explorés par les hebdos.
Notamment la présidentielle française. Il faut dire que pour les votants, c'est encore dans 2 ans. Pour les politiques, ce n'est au contraire que dans 2 ans. Candidats assumés ou présidentiables imaginez, une partie des revues s'y penche cette semaine. Parmi eux, Le Point, dont la une est consacrée à l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. À l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage, Le Prix de nos mensonges, celui qui fourbit ses armes depuis 2020, développe ses idées, à commencer par ce déni français dont souffrirait la population dans son ensemble. Notre exceptionnelle aptitude à nous raconter des histoires m'agace, maugrait-il dans les colonnes du Point, jugeant que si nous voulons avancer, nous devons arrêter de nous mentir. Autre thème sur lequel il rejette toute discussion, le culte de la transparence à bannir selon lui et la verticalité qu'il appelle de ses voeux. Car dans une démocratie, dit-il, on a besoin de gens qui sont élus et on a besoin de chefs qui prennent des décisions.
Sur le reste, pas de prise de position trop franche.
Mais il faut dire, comme l'analyse un politologue dans les colonnes du Point, toujours, que pour redevenir majoritaire, la droite devra faire le grand écart, c'est-à-dire à la fois reconquérir les électeurs du Rassemblement National et convaincre les ralliés au macronisme, une forme de « en même temps 2.0 » dont Édouard Philippe refuse d'être l'héritier. « Mon objectif n'est pas de me positionner par rapport à une étiquette, à un parti, à un créneau », assène-t-il. Édouard Philippe prend donc soin de nuancer, notamment sur les questions identitaires et migratoires. « Je ne crois pas, dit-il, que la fermeté se démontre par des postures et des surenchères permanentes sur les chaînes d'infos. Il serait dangereux, martèle-t-il enfin, de créer un droit spécifique, il faut ici comprendre droit au sens de loi, pour une religion, et je ne crois pas que la laïcité impose la négation totale de la liberté religieuse dans l'espace public.
Une façon de marquer la rupture avec certains autres cadors de la droite.
Et particulièrement avec Bruno Retailleau, le très droitier ministre de l'Intérieur. À son sujet, Édouard Philippe s'accorde une pique, il n'est pas sûr, ironise-t-il, que Bruno Retailleau verrait une critique si on le rangeait dans la droite Trocadéro, comprendre une droite embourgeoisée, catholique et vieille France. Droite Trocadéro, on ne sait pas. Droite à gogo, en revanche, c'est certain pour Marianne, qui n'hésite pas à qualifier le ministre de moine soldat de la droite, qui a souvent croisé la route d'élus de l'extrême droite sans leur tourner le dos. Va-t-il pour autant réaliser l'union en 2027 ? Eh bien, Marianne s'interroge. Le titre pointe que Retailleau bénéficie des faveurs de la presse de droite et d'extrême droite à la télé ou sur papier, où il déroule ses saillies anti-immigration, multiplie les annonces chocs et affiche une grande fermeté à l'encontre de l'Algérie. Le ministre de l'Intérieur le dit d'ailleurs lui-même, interrogé sur sa proximité ou ses différences avec le Rassemblement National, il le concède. Ce qui le distingue de Marine Le Pen ou Jordan Bardella, c'est le programme économique, Pas un mot, en revanche, sur d'éventuelles divergences idéologiques.
Et rien non plus, Léa, sur la situation internationale.
Les hebdos, pourtant, eux, s'y intéressent, que ce soit dans l'Express ou dans Le Point, une préoccupation, les liens entre l'Europe et Donald Trump. Dans le second, on parle plutôt défense et armement. Dans le premier, c'est surtout de politique qu'il est question. L'Express fait ainsi le constat d'un trumpisme devenu franchise, voire un label qui galvanise les politiques, propulsant les Giorgia Meloni et Viktor Orban de ce monde au sommet grâce à une boîte à outils dans laquelle ils peuvent piocher à l'envi des punchlines comme autant de coups gagnants. Le phénomène n'est en réalité pas nouveau, analyse l'Express. Le trumpisme n'a fait que donner un coup d'accélérateur à une idéologie enracinée dans une colère profonde. Car il ne faut pas sous-estimer le poids des émotions dans le contexte actuel, souligne de son côté l'Obs. Interrogée par le magazine, la sociologue franco-israélienne Eva Ilouz estime ainsi que le désenchantement et la peur sont devenus le spectre permanent de la démocratie et que l'extrême droite capte et organise cette émotionnalité excédentaire. Auparavant, l'espoir était selon elle l'émotion principale, mais voilà, la modernité tardive a écrasé cette espérance dans le futur. Alors faut-il se lamenter de toute cette colère? Eh bien, pas forcément, nuance l'Obs. Les émotions fortes permettent d'évaluer ce qui est important pour soi, mais elles sont aussi une brèche pour peut-être enfin sortir de la sursocialisation, le fait de s'identifier totalement en permanence à un rôle. De là à rêver au retour de l'espoir, il n'y a qu'un pas.
La revue de presse signée Léa Boutin-Rivière.